passait à tort pour égyptien. Et là, c'est particulièrement étonnant. Je reviens à ma première image. Ainsi, avant Poggio Bracciolini, qui corrige Pétrarque lui-même, la pyramide de Cestius, si vous êtes allé à Rome, peut-être l'avez-vous vu, passait pour être le tombeau de Rémus, mort non loin de là, selon une légende, et recevait d'ailleurs l'appellation de Sepulchrum Remi, c'est-à-dire tombeau de Rémus ou Meta Remi. Et elle avait en quelque sorte un pendant, la Meta Romuli, donc une sorte de tombeau de Romulus, qui est un étrange monument antique pyramidal qui est aujourd'hui disparu et qui se trouvait près du château Saint-Ange. Je vous montre ici, là, la pyramide de Cestius, dite aujourd'hui, enfin à juste titre d'ailleurs, pyramide de Cestius, et donc qui passait pour être le tombeau de Rémus, le frère de Romulus. Et ici, juste à côté donc, du mausolée d'Adrien, cette Meta Romuli, aujourd'hui complètement disparue, parce que les travaux d'aménagement du quartier du Borgo à Rome l'ont fait disparaître au début du XVIe. Et puis on a divers monuments qu'on reconnaît assez facilement, ici le Colisée, ici les colonnes trajanes et auréliennes, bon, diverses autres choses. Et vous voyez, de choses égyptiennes malgré tout, enfin, que nous considérons comme égyptiennes, bien peu. On peut voir une autre vue. Ici, on ne voit que la Meta Romuli, mais on la voit un petit peu mieux, n'est-ce pas? Juste à côté, donc, du château Saint-Ange. Bon. Plus étonnant encore, il y avait une belle frise d'un temple de Neptune, incorporée d'abord dans un mur de l'église Saint-Laurent-les-Murs, puis déplacée dans la collection du Capitole au début du XVIe. La voici. Une gravure ancienne avec, vous voyez, hieroglyphicum effigies, donc c'est une image de deux hiéroglyphes au pluriel, et tout à fait franchement, on ne reconnaît là que des objets bien latins. Ici, le bonnet du flamine, l'apex, bon, une ancre, un rostre de navire, un timon, un gouvernail de la même façon, la plustre, un bucrane, une patère ici, bon. Tout cela, et on ne peut plus latin. Mais cela passait pour égyptien. J'ajouterai même une découverte un peu plus tardive par rapport au point où je me situerai. Ça, c'est la gravure qui en a été faite. Elle est aujourd'hui toujours conservée donc, à Turin. Il s'agit en fait de ce qu'on appelle la tabula Bembi, littéralement table de Bembo, cardinal Bembo, Pietro Bembo, qui l'a conservée en fait, dans sa collection, qu'il avait acquise lorsqu'elle a été découverte au début du XVIe. Alors, très admiré. Le seul problème, c'est pas égyptien. C'est une copie égyptisante du début de l'ère chrétienne, enfin, début de l'Empire, 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Ça a été fait visiblement dans la région du Latium, mais ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Alors, il faudrait enfin ajouter que l'Égypte d'alors, ça existe toujours quand même cette Égypte, est un endroit bien peu fréquenté. Au début et à la fin du XVe, le marchand et antiquaire syriaque d'Ancône, puis l'helléniste vénitien Urbano Bolzano s'y rendirent. Et ils rédigèrent même des comptes rendus de voyage, malheureusement aujourd'hui perdus. Mais bien peu nombreux étaient les voyageurs qui s'aventuraient dans ces contrées, car l'Égypte, depuis le début du XVIe, se trouve en pays ottoman, depuis 1517. En fait, son prestige est essentiellement lié à l'autorité fabuleuse que lui confèrent les textes antiques et certains vestiges archéologiques passés à la postérité, comme le phare d'Alexandrie, l'une des merveilles du monde. L'Égypte, c'est aussi une terre d'initiation philosophique. Platon et les mages mazdéens passaient pour avoir fait un séjour, Pythagore aussi. C'est un centre culturel, dirait-on aujourd'hui, de première importance avec la fameuse bibliothèque à l'époque des Ptolémées. Et le cadre aussi, pour faire rêver d'une autre manière, cadre luxueux, mythique, de la vie inimitable d'Antoine et Cléopâtre. C'est aussi, petite apostille que j'ajouterai, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est un pays de magiciens. D'ailleurs, les mots gitans, gypsy, ça vient de égyptien, parce que c'était des diseurs de bonne aventure et qu'on le reliait à l'Égypte. C'est aussi un pays de magiciens parce qu'on se souvient que dans l'Andor d'Apulée, eh bien, il y a de nombreuses sorcières qui apparaissent, des jeteurs de sorts. Et c'est le côté noir de l'Égypte qui n'est pas sans importance. On pourra le voir peut-être plus tard. C'est assez dire, avec ces quelques exemples, si les connaissances sur l'Égypte antique, et plus encore sur ses hiéroglyphes, sont confuses à la fin du XVe, moment où nous nous placerons pour poursuivre cet exposé. C'est assez dire aussi que l'Égypte, et ceux qui s'y rattachent, restent d'abord et avant tout matière livresque héritée de l'Antiquité. Les sources principales, chez les Grecs, le deuxième livre d'Hérodote, tout le monde connaît au moins le titre, le Sur Isis et Osiris de Plutarque, la Bibliothèque de Diodore, les Énéades du philosophe Plotin, les Mystères d'Égypte de Jean Blic, mais aussi et surtout les Hiéroglyphica d'Aurapollon, dont on reparlera. Chez les Latins, on trouve des bribes, ici et là. Amiens Marcellin, qui décrit plus particulièrement un obélisque, des fragments des barbares, Kérémon, Manéthon, et c'est tout. Cependant, tout auteur qui entreprend de parler des hiéroglyphes à la Renaissance se sent obligé d'exposer leur origine et en vient fatalement à évoquer ce qui est désigné par l'expression « prisca theologia », qu'on ne traduit pas, mais qui signifie littéralement « théologie ancienne », pour ne pas dire « originelle ». Alors apparaît la figure complexe du mage Hermès Trismégiste. Le dieu égyptien, Thoth ou Teut, vous savez, passe pour être l'inventeur des hiéroglyphes, et il avait été assimilé par les Grecs et les Latins, respectivement, à Hermès et Mercure. Il était ainsi parfois affublé du qualificatif de trois fois très grand, ter maximus en latin. Plus tard, on attribua les écrits du Corpus Hermeticum, composés au 2e, 3e siècle de notre ère, à ce fameux Hermès Trismégiste, qui intervient d'ailleurs en personne. Or, dans leur tentative d'établir un lien entre religion chrétienne et doctrine philosophique de l'Antiquité païenne, en particulier avec le platonisme, les pères de l'Église découvrirent dans l'Asclépius, l'un de ces textes, de curieux passages où Hermès Trismégiste reconnaissait apparemment l'existence d'un seul Dieu et de son Fils. C'est ainsi que, dans les institutions divines, Lactance, un père latin de l'Église, place Hermès Trismégiste au premier rang des prophètes des gentils qui prévoyaient la venue du christianisme. Restait une question qui taraudera les pères et plus tard les humanistes à cause de ressemblances frappantes entre l'un des textes, le Pimandre, donc du Corpus Hermétique, et la Genèse. Ce Trismégiste était-il antérieur à Moïse ? Si saint Augustin place Hermès Trismégiste après Moïse, il confirme surtout par son autorité l'extrême antiquité du personnage. Bon, l'intérêt là-dedans, c'est que Hermès Trismégiste devient une figure proche du moment où, selon la Bible, Moïse justement dialogue avec la divinité. Et si Hermès Trismégiste a quelque relation que ce soit avec le Thoth égyptien, les fameux hiéroglyphes égyptiens serait, pense-t-on, le médium, hein, le langage par lequel Dieu se serait adressé à Moïse et à Hermès. C'est ainsi que lorsqu'en 1460, le manuscrit de 14 traités du Corpus Hermeticum arrive en grec à Florence, Côme l'Ancien demande à Marcille Ficin, le philosophe, 1433-1499, de traduire Hermès Trismégiste avant même de traduire Platon, tellement on a alors l'impression que ce texte et d'une haute antiquité, et qu'il plonge aux sources du sacré chrétien. Telle est bien d'ailleurs l'impression de Ficin lui-même. Très vite, il rapproche aussi certains passages du corpus et des textes de Platon. Pour lui, l'affaire est entendue. Il existe une chaîne ininterrompue, une chaîne d'or, catena aurea, dit-il en latin, qui part d'Hermès Trismégiste pour aboutir à Platon, en passant par Pythagore, tous deux ayant voyagé en Égypte où ils auraient été initiés aux mystères égyptiens. En outre, Ficin est persuadé que le Pimandre a été écrit en hiéroglyphes égyptiens, puis seulement ensuite traduit en grec. Ainsi, les hiéroglyphes, en tant qu'écriture sacrée par excellence, se trouvent étroitement mêlés aux origines de cette prisca theologia. Comme d'autre part, le lien entre Hermès Trismégiste et le Christ avait été établi dans un premier temps par l'intermédiaire de Lactance, et que d'autre part, la filiation avec Platon ne faisait plus de doute, comme enfin la tentative de concilier platonisme et christianisme était poursuivie depuis l'Antiquité, Hermès Trismégiste devenait ainsi le personnage fondateur de toute une tradition de sagesse qui avait en quelque sorte glorieusement abouti à la religion chrétienne. Transmetteur de cette sagesse, les hiéroglyphes se voyaient ainsi auréolés d'une gloire extraordinaire. On rejoint là ce qu'il faut bien appeler un contresens fondateur dans la réception des hiéroglyphes, dont Ficin s'est rendu largement responsable en accentuant le caractère sacré de cette écriture, condamnant de fait tout exégète à n'y rien comprendre. Pour résumer, avant de préciser plus avant, Ficin part de l'idée que les hiéroglyphes étant par nature des caractères sacrés, ils sont destinés à dire non pas toutes les réalités, mais seulement les réalités cachées, les arcanes divins, qu'ils enveloppent sous un voile de mystère pour empêcher leur profanation par ceux qui n'y ont pas droit en quelque sorte. En effet, Nourri du néoplatonisme de Plotin, de Jamblic et de Porphyre, dont il traduit les œuvres en grec, Ficin voit dans les hiéroglyphes un langage religieux crypté qui traduit sous forme naturelle, c'est-à-dire imitant les formes de la nature, la réalité transcendante du monde des idées et du nous, de l'esprit platonicien. Le hiéroglyphe, véritable symbole, unit deux vérités consubstantielles, la matérialité du signe et son corollaire noétique en relation avec le divin. Dans la traduction que fait Ficin de Jamblic, il écrit, c'est une traduction qui est en même temps une adaptation, « Les Égyptiens, en effet, imitant la nature universelle et la création divine, produisent eux aussi, sous forme de symboles, des sortes d'images, des concepts mystiques et invisibles, de même que la nature est exprimée par des formes apparentes et pour ainsi dire symboliques, les raisons secrètes, et que les dieux déploient la vérité des idées par les images visibles. » De plus, Ficin répand la croyance ferme en l'idée d'une langue qui échappe aux écueils de la discursivité et promeut la fiction de la cognition immédiate. Car l'enjeu était là. L'enjeu, c'est la communication directe par ce langage-là. Et si ce langage a bien été utilisé par Dieu pour s'adresser à Moïse, alors il y avait là quelque chose d'absolument extraordinaire à trouver. Les prêtres égyptiens, pour signifier les objets divins, écrit encore Ficin, n'employaient pas des lettres, mais des figures complètes de plantes, d'arbres, d'animaux. Car Dieu a sans doute une connaissance des choses qui n'est pas une pensée complète et discursive, mais en quelque sorte leur forme simple et directe. Quittant le processus aristotélicien de l'abstraction mentale, on passe ainsi de manière troublante à la réminiscence platonicienne et donc au monde des dieux idées. Ce motif d'une Prisca Theologia pourvoyeuse de symboles hermétiques dont l'intellection est réservée aux seuls mystes, aux seuls initiés, et donc interdite aux profanes, est à la Renaissance un topos, un lieu commun, et se décline en toute une série d'images plus ou moins originales. Ainsi, la métaphore récurrente du voile couvrant les arcanes sacrés, si fréquente chez Ficin et Pic de la Mirandole, est relayée par la célèbre comparaison platonicienne du Silène d'Alcibiade, reprise par Erasme et Rabelais. Les hiéroglyphes restent dans ces conditions un objet tout théorique que l'existence palpable sur des statues ou des fragments d'obélisques suffit à justifier. Mais la découverte des hiéroglyphica d'Apollon et des volontés individuelles vont pourtant changer cette donne initiale d'une manière telle que les conséquences sur la constitution d'un langage symbolique seront considérables. Bien qu'elle soit légèrement antérieure aux écrits ficiniens, qu'elle a finalement peu influencé, nous revenons maintenant sur la découverte des hiéroglyphica d'Apollon. En 1419, sur l'île grecque d'Andros, un Florentin, un moine érudit et chercheur de manuscrits comme il y en a tant à cette époque, Cristoforo Buondelmonti, trouve un manuscrit qu'il va ensuite rapporter à Florence en 1522 et dont le contenu sera largement diffusé. On croit alors avoir fait une découverte d'autant plus importante que le nom de l'auteur paraît l'annoncer. Apollon, Horus et Apollon rassemblés, deux dieux emblématiques de l'Égypte et de la Grèce. En fait, les deux livres sont indubitablement antiques. Deux livres qui composent le petit ouvrage donc sont antiques et sont placés sous le nom d'auteur, donc Apollon, qui est un Égyptien hellénisé du 5e-6e siècle après Jésus-Christ. Il se présente explicitement dès le titre comme une traduction grecque à partir des hiéroglyphes égyptiens, traduction rédigée par un soi-disant Philippe, inconnu par ailleurs. Il propose, les uns à la suite des autres, près de 200 hiéroglyphes en tout, dont les 70 premiers signes, soit tout le premier livre, et les deux derniers du second, sont authentiquement d'origine égyptienne, comme on a pu le montrer dans les années 40. En revanche, tous les autres possèdent des sources dépendant de la littérature grecque. Je vous ai dit, Apollon est un Égyptien hellénisé. Et sans doute ne comprenait-il plus lui-même tout des hiéroglyphes. La lecture de cet ouvrage montre qu'Apollon, justement, ne comprend pas sans doute plus comme entité phonétique signifiante, les signes qu'il a sous les yeux. Quoi qu'il en soit, les hiéroglyphes livrés par le manuscrit ne sont finalement qu'en petit nombre, et ils ne s'accommodent pas forcément avec les symboles traditionnels du christianisme. Ainsi, le poisson, symbole chrétien s'il en est, ictus, peut signifier, chez les Égyptiens, selon Apollon, l'iniquité et la souillure, ce qui convient, on en conviendra, difficilement au monde chrétien. De manière analogue, les hiéroglyphes présentent parfois des formes bizarres et par trop inhabituelles pour être fréquemment utilisées. Ainsi, l'homme qui mange les heures. Vous entendez bien, ça fait très surréaliste. L'homme qui mange les heures, pour dire l'horoscope. Bien que le nombre de signes soit restreint, le petit livre d'Apollon présente pourtant l'intérêt de donner beaucoup plus de signes égyptiens que ce qui était connu jusque-là. De plus, et là c'est important, la manière, peut-être encore plus, la manière dont les hiéroglyphes sont introduits isole très nettement signifiant et signifié. La formule titre de chaque hiéroglyphe est très répétitive et porte ou sur le signifié, le plus souvent en fait, ça commence par une question. Que veulent dire les Égyptiens quand ils représentent telle chose? Ou bien sur le signifiant, comment signifie-t-il tel concept? Ainsi, le premier hiéroglyphe du livre 1 porte-t-il comme titre « Comment les Égyptiens signifient l'éternité ?» Le premier du second, « Que veulent-ils dire quand ils représentent une étoile ?» Un dernier exemple concret pour donner une idée globale d'un de ces hiéroglyphes, qui paraissent comme des articles les uns à la suite des autres. Hein. Comment ils représentent la force? Pour représenter la force, ils figurent la partie antérieure du lion, parce que c'est la partie la plus forte de son corps. Point à la ligne. Dans cette succession de hiéroglyphes, on ne trouve cependant vraiment d'énoncés hiéroglyphiques à proprement parler, je veux dire de combinaisons de signes, de plusieurs signes équivalents à une phrase d'un langage articulé. On n'en trouve pas. En outre, le texte de Rapollon contribue de fait à asseoir la conception que les hiéroglyphes constituent un langage purement symbolique. Globalement, on ne peut vraiment pas déduire, à partir de Rapollon, que ces signes pourraient avoir une simple valeur phonétique et encore moins servir de déterminatif. C'est un moine dominicain vénitien dont on ne sait presque rien d'assuré, Francesco Colonna, qui va résoudre, en quelque sorte, la question de l'articulation des hiéroglyphes en énoncé digne de ce nom, dont son curieux roman, vraisemblablement achevé dès 1467, mais paru chez Aldemanus à Venise seulement en 1499, est intitulé « Hypnerotomachia polyphili », dont la traduction serait, à peu près, « Combat d'amour en songe » de Polyphile. C'est un livre écrit dans une langue composite, ni latine ni vernaculaire, c'est-à-dire ni latine ni italien, mais un mélange des deux. Et il est surtout très richement illustré par un artiste toujours inconnu, on a proposé quelqu'un dans la suite d'Andrea Mantegna, sans plus de précision. Il raconte la quête amoureuse de Polyphile à la recherche de Polia, sa belle, dans un rêve que le narrateur et héros Polyphile a fait à l'intérieur d'un autre rêve. C'est un rêve dans le rêve. Ça commence, effectivement, il s'endort, il rêve. Et c'est sur cette lancée que le lecteur est envoyé. Retenons qu'au cours de ses pérégrinations, c'est ce qui va être important pour nous, Polyphile traverse des paysages peuplés de ruines antiques et qu'il passe devant des monuments ornés d'énigmatiques hiéroglyphes, il les appelle comme cela, qu'il s'évertue à déchiffrer. Au grand soulagement du lecteur, les 10 monuments sont représentés par des gravures et les inscriptions presque systématiquement déchiffré. Comme cela a été montré, Colonna ne connaît pas Rapollo, dont il ne se sert jamais. Pour chaque signe qu'il emploie, on peut trouver une source gréco-latine. Mais il propose des phrases hiéroglyphiques d'un genre tout à fait singulier. Ainsi, sur l'obélisque tombeau de César, qui rappelle d'ailleurs la légende médiévale concernant l'obélisque du Vatican, dont je parlais tout à l'heure, puisque cet obélisque était censé contenir les cendres de César. On voit une plaque gravée et une inscription suivie de son déchiffrement. Alors voilà la fameuse plaque. Je vous ai laissé la langue si curieuse du latin matinée d'italien ou l'inverse. Et voici donc cette plaque avec l'inscription latine dont je fais la traduction. Donc d'abord le latin. Donc, Divo Iulio Caesari, Semper Augusto, Totius Orbis Gubernatori, Ob Animi Clementiam et Liberitatem, Aegypti Communi Aere, S pour Sacrum, Erexere, ou Sepulcrum, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je commence par le latin parce que ce sera plus simple d'expliciter ce qui est au-dessus. Au divin Jules César, Divo Iulio Caesari, Semper Augusto, toujours Auguste, Totius Orbis, c'est en abréviation comme souvent dans les inscriptions latines, Totius Orbis Gubernatori, maître du monde entier, Ob Animi Clementiam, c'est abrégé aussi, et Liberalitatem, à cause de sa clémence et de la libéralité de son esprit, donc n'oublions pas, c'est un datif, donc à Jules César, les Égyptiens, communi aere par une dépense publique, c'est-à-dire par une dépense d'État, ont, sacrum erexere, ont érigé un temple ou un tombeau. Alors, essayons maintenant de voir à quoi chaque chose correspond. L'œil, ici, dit wo, c'est un symbole de la divinité. Iulio est ici représenté par deux épis de blé croisés. Caesari est représenté par un couteau. Ça peut paraître curieux, sauf que Caesar, c'est celui qui est né d'une césarienne, donc par le couteau. C'est aussi celui qui est mort sous le couteau. Mais ça paraît moins évident pour d'autres raisons archéologiques. Semper Augusto, ça c'est difficile à reconnaître, ce sont deux fléaux à blé. Alors c'est expliqué juste avant, dans le texte de Colonna. Donc deux fléaux à blé qui sont devant un cercle. Le cercle, Semper, toujours. C'était un symbole donc d'éternité. Donc Semper, toujours, le cercle, Augusto, les deux fléaux à blé. Orbem, c'est le globe, le monde, totius orbem. Nous avons donc le globe avec donc l'équateur et puis la lune et le soleil. Donc c'est carrément l'univers. Gubernatori, ça ce n'est pas une pelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est un timon de navire. Ob animi clementiam. Alors, voilà un signe très intéressant. Nous avons un vase et une branche d'olivier. Pourquoi ? La branche d'olivier, en fait, on l'a trouvée. On sait ça par un texte latin, hein, par, grec en l'occurrence. On l'a trouvé autour du temple de Clementia, qui est une déesse aniconique, c'est-à-dire sans représentation figurée, temple qui se trouvait à Athènes. Donc, Clementia. Et elle est plongée, vous voyez, dans un vase. Donc, le fait qu'elle soit dedans permet d'indiquer le génitif latin, c'est-à-dire le rapport du complément de nom. Pourquoi le vase pour symboliser l'âme ? Par métonymie, selon Cicéron, la vieille expression « corpus quasi vas », le corps est comme un vase. Et, j'allais dire, inversons les choses. Si le corps est comme un vase, alors l'âme y est contenue et peut-être représentée par lui. Vous voyez que c'est un peu complexe. Liberalitatem est représenté non pas par un cercle, mais c'est une patère. Une patère, c'est un plat, très plat justement, qui servait en particulier pour des sacrifices. Ça aussi, c'est très bien attesté dans les textes gréco-latins. À Égypte, cet oiseau est un ibis, et pour qu'il y ait le pluriel, ben on en met deux. Communi aere, ça, ce sont des pièces de monnaie. Six est un symbole de perfection. Là, on trouve diverses sources pour ceci. Pièces de monnaie, bon, indique évidemment la dépense. Dispensé en cercle parce que la disposition des citoyens dans l'assemblée est telle. Sacrum, ben là c'est facile. C'est un temple avec une porte ouverte et on y voit au milieu un petit autel. Et erexere, c'est un pluriel, erexerunt, ou erexere, si vous vous souvenez de votre latin. Et il y en a deux, pluriel. Et vous avez cette chose un peu plus bizarre encore peut-être. Oui, ce sont des fils à plomb. Ce sont. Pour le coup. Ici, vous avez un médaillon. Donc, disposition autre, avec un autre sens. Pace ad concordia parvae res crescunt, discordia maximae decrescunt. Ce qui signifie dans la paix et la concorde, grâce à la paix et la concorde, les petites choses croissent, dans la discorde, ou à cause de la discorde, les plus grandes décroissent. C'est un propos en fait de Salluste qui se trouve ici donc exprimé. Bon, c'est pas si étonnant que cela puisque Salluste était un grand ami de César. Alors comment est-ce que c'est fait ? Paquet Concordia, c'est le caducé d'Hermès. Si vous vous souvenez, Hermès crée le caducé en jetant une baguette d'or entre deux serpents qui sont en train de se battre. Et Hermès donc son caducé a cette valeur-là, paix, concorde. Paroaérès. Les deux fourmis, ce sont des fourmis, ça. Les deux fourmis inférieures croissent, elles deviennent éléphants. Alors, elles croissent du centre vers la périphérie. Le mouvement est assez bien vu aussi. Mouvement qui est vraisemblablement, à voir par rapport à l'axe de symétrie centrale. Discordia. La discordia est exprimée par la coupe avec le feu et une coupe dans laquelle il y a de l'eau. Maxima, ben là c'est le contraire, l'arrière-train des éléphants qui devient fourmi. Voilà. On remarquera, vous y avez été sensible je crois, l'absolue nécessité dans laquelle le lecteur se trouve, même le lecteur habitué, de connaître la solution. Ce qui contrevient, vous en conviendrez d'ailleurs avec moi, avec l'idée du langage évident, le langage qui est en quelque sorte immédiatement compréhensible par la simple vision, qui était tellement célébré, ce langage, par Ficin à la suite des anciens. L'énoncé figuré ici se décompose parfaitement en éléments simples, et Colonna ébauche par l'exemple les principes d'une syntaxe iconique aisément compréhensible. Par exemple, le génitif latin dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, le pluriel. Ouais. Il y a un ensemble de catégories, syntaxiques ou autres, qui se retrouvent ici, dont le problème posé par la représentation se retrouve ici réglé. D'ailleurs, les hiéroglyphes de Colonna sont tellement convaincants, on oserait dire plus convaincants que les hiéroglyphes égyptiens, qu'une dizaine d'entre eux seront même repris et ajoutés à la première traduction française des Hieroglyphica qui paraît chez Carver à Paris en 1543 et qui se trouve avoir été illustrée par près de 200 bois attribués aujourd'hui à Jean Cousin. Avec Colonna, un pas très important est franchi. Parce que sa méthode, qui est très empirique, va influencer en fait durablement le langage symbolique de la Renaissance, alors en germe. Je vais vous montrer à quel point ça va vite. Nous avons ici un tableau de Gentile Bellini, et vraisemblablement aussi dans lequel Giovanni, son frère, a participé, et auquel son frère a participé. Il s'agit de Saint-Marc, que nous reconnaissons ici, en train de prêcher à Alexandrie. Alors, c'est une grande toile, 347 cm sur 770 cm, qui a été peinte entre 1504 et 1507. Donc vous voyez, quelques années, même pas 10 ans après l'apparition du Colonna, qui date de 1499. Et vous avez ici un obélisque. Et vous remarquerez, avant que nous allions plus avant, que cet obélisque est exactement à la verticale de Saint-Marc. Pour savoir que nous sommes à Alexandrie et non pas à Venise, puisque les cendres de Saint-Marc, les reliques de Saint-Marc, comme on le sait peut-être, sont conservées, étaient conservées à Venise, avaient été volées justement à Alexandrie et étaient conservées dans une église qui ressemblait beaucoup à celle-ci, surtout que celle-ci n'est pas une église. Mais il y a un jeu là sur un jeu vénitien typique. En quelque sorte, l'édifice que nous trouvons ici préfigure pour les Vénitiens la basilique dans laquelle les reliques de Saint-Marc sont effectivement conservées. Pourquoi sommes-nous plutôt en Égypte ? Nous avons ici, parce que là nous avons une colonne qui est la colonne de Pompée, c'était un monument que connaissaient les voyageurs et qu'on retrouve dans les guides. Ici nous avons un minaret, ici nous avons quelque chose qui ressemble aussi beaucoup. Alors vous voyez qu'il y a un parfait anachronisme entre les divers objets. Il n'y a pas de strates chronologiques facilement identifiables. Tout est superposé. Et puis bon, nous avons une assemblée ici qui est très visiblement orientale, ainsi que là. Et puis ici, nous avons une girafe. Et nous avons même un dromadaire ici. Voilà. Donc Saint-Marc prêchant. Mais ce n'est pas vraiment... C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, vous me pardonnerez la piètre qualité de ce détail, mais je n'ai pas mieux. Et comme c'est précisément parce que c'est un détail. Alors, sur ce détail, nous allons voir si nous voyons la même chose. Ici, vous voyez un cercle. Ici, vous voyez quelque chose qui ressemble à un T, qui est en fait une haleine de charpentier. C'est un outil qui sert à percer des trous. Ici, vous avez une anguille, quelque chose qui ressemble à un serpent, une anguille. Là, c'est ce qui est le plus difficile. Vous avez une chouette. Ici, vous avez VL. Ici, vous avez deux semelles. une fois qu'on vous l'a dit, vous pouvez éventuellement les voir. Et ici, vous avez, je vais essayer de bien le suivre, vous avez une sorte de crochet, et à côté, il y a un petit rond. Voilà. Je vous mets au défi de trouver des obélisques égyptiens qui ressemblent à ça. C'est bien pour ça que je dis, Colonna est ici immédiatement décelable. Alors, Charles Dempsey, qui a fait un article absolument brillantissime et fondamental sur ce tableau, s'est amusé en même temps, parce que c'est aussi la recherche peut être aussi amusement, à comprendre ce que cela signifiait. Et en fait, ça signifie la chose suivante. Sérapis, pour ses sujets, a exaucé un vœu. À cause de l'ignorance et de la vie et de l'envie, à l'avenir, sa fortune va décroître. Rappelons-nous, nous sommes ici avec Saint Marc qui prêche. Et cela rappelait un prêche de Saint Paul aux Athéniens, où Saint Paul s'était servi d'une inscription qui ornait un monument pour convertir en fait son assistance. Le peintre a choisi une scène qui en fait est sur le même thème. Mais ici, ce qui donne en quelque sorte le thème, à savoir la fin de divinités païennes, c'est ce fameux obélisque. Et c'est la raison pour laquelle finalement mon éminent collègue a réussi à trouver aussi la solution. Alors, je reviens sur l'obélisque. Ici, le petit crochet et le rond, on en trouve à peu près l'explication chez Plutarque. Le petit crochet, enfin ce qui ressemble à un crochet, en fait, c'est le sceptre. Et le petit rond désigne le soleil. C'était généralement utilisé pour désigner Osiris. Mais à Alexandrie, ce n'est pas Osiris le dieu majeur, c'est justement Sérapis. Et il croit, à mon avis à juste titre, que c'est bien ce dieu qui est ici désigné. Les semelles, on le sait par Colonna, ce sont les sujets. VL, où là il a emprunté tout bêtement un schéma d'inscription romain. Ici, c'est tout simplement « vovit libens », c'est-à-dire, littéralement, l'expression normale, c'est « votum vovit libens », c'est-à-dire « à exaucer un vœu », « à volontiers exaucer un vœu », et qui est ici simplement symbolisé par les initiales. La chouette est ici, symbole, et c'est curieux, d'ignorance, et non pas de sagesse. Mais ça se trouve, ça ne pose aucun problème. L'anguille, ce n'est pas un serpent, en fait, on peut le voir par comparaison. Il faudra que vous me fassiez confiance sur l'élucidation, et aussi, enfin plutôt d'ailleurs à mon collègue. L'anguille est un symbole d'envie. La laine du charpentier reproduit la lettre Tau, qui est le premier modèle de la croix chrétienne, et qui signifie la vie future. Ça, c'est peut-être le plus difficile à voir dans le piètre état de mon image. Ici, vous avez en fait la vieille lune qui est intégrée dans la nouvelle. Là, croyez-moi, hein, on le voit, j'allais dire, sur une meilleure image. Et qui, en fait, signifie simplement la décroissance, c'est-à-dire, en fait, exactement ce que dit l'inscription. D'une manière un peu différente, et plus proche peut-être d'Aurapollon, nous avons ceci. Le portrait, et là, on retrouve justement Aurapollon, qui est un portrait de Maximilien de Habsbourg, qui date de 1519 à peu près. Ah non, je dis une bêtise, 1512-1513, ça. Dürer. Dürer a fait la plus... Comment ?
Oui, non.
Oui, absolument. C'est une toute petite partie d'une énorme composition qui fait à peu près plus de 3 mètres de haut sur pratiquement 2 mètres de large, qui est une immense gravure qui représente un arc de triomphe. Et au sommet, à peu près, de l'arc de triomphe, il y a ceci. Ça fait 3,05 m sur 2,85 m. Et Dürer a placé dans un édicule donc ce quadro avec le portrait de Maximilien, qui trône au milieu de symboles curieux. Vous avez sans doute rarement vu une grue avec une patte en l'air tenant une pierre devant donc un monarque. Et alors, plus bizarre, ses pieds nus coupé en dessous des siens. ou bien un chien avec une étole. Bien. Bon, le coq, c'est plus commun, le coq. Alors, pour qu'il soit théoriquement possible d'identifier le discours allégorique tenu par tous ces symboles, il a également gravé dans un cartouche placé sous le portrait la traduction allemande du texte latin, rédigé par le programmateur, donc son ami Willibald Pirkheimer, qui avait également déterminé la traduction de l'image en une séquence hiéroglyphique. On le sait parce qu'on connaît le manuscrit. Les hiéroglyphes sont posés à côté et autour de Maximilien sans être vraiment intégrés au portrait à proprement parler. Ils se surajoutent à la figure de l'empereur, dont les traits sont aisément reconnaissables. Il n'y a pas de doute pour qui connaît un peu le visage de Maximilien. Leur identification n'est pas forcément simple à ce moment, parce que nous sommes dans la nation germanique, et parce que donc, ils proviennent d'Orapollon. Orapollon s'était trouvé en Italie, malgré tout, même si, je le dis, ça s'est diffusé, Orapollon s'est diffusé rapidement, mais quand même, la première édition date de 1505 seulement, et la première traduction date de 1515, donc elle est en fait postérieure. Si bien que le décryptage fourni est indispensable, à moins de connaître la source textuelle grecque. Alors voyons ce que ça signifie. Maximilien, l'empereur lui-même. Prince, c'est le chien qui porte l'étole. C'est Orapollon 1.40. Je peux vous donner toutes les références si vous le souhaitez. D'une grande piété, ça c'est l'étoile au-dessus de la couronne impériale, ici. Infiniment magnanime, puissant et brave. Je vous ai donné tout à l'heure le hiéroglyphe. C'est le lion qui est à ses pieds. Ennobli par une renommée impérissable et éternelle. Le basilic, ici, sur la couronne de l'empereur. Descendant d'une antique lignée. La gerbe de papyrus sur laquelle il est assis, ici. Empereur romain. Ça, plus facile, l'aigle bicéphale qu'on voit partout sur la tenture. Favorisé de tous les dons de la nature et versé dans les arts et les sciences. Là, c'est la rosée tombant du ciel. Maître d'une grande partie du globe terrestre. Serpent enroulé sur le sceptre. Ici. A. Avec vaillance et grande modestie. Modestie, c'est le taureau. Remporté, vous voyez ici, une éclatante victoire. Faucon perché sur le globe. Ici. Sur le puissant souverain. Indiqué ici par un coq, ça vous savez qui c'est, François Ier, et s'est ainsi préservé avec vigilance, c'est la grue qui, pour ne pas s'endormir, tient une pierre, enfin passée pour tenir une pierre, et si elle la lâche, évidemment elle se réveille. Des stratagèmes du dit ennemi, ce qui passait pour impossible, ce sont les pieds qui marchent sur l'eau tout seuls. Vous voyez là aussi que la multiplicité des symboles, l'absence finalement de syntaxe cette fois, enfin l'absence j'exagère, mais une syntaxe tout au moins qui est empirique, ne permet pas, sans le code donné par le concepteur, de trouver la solution. Alors en même temps, au passage, on comprend bien ici qu'on touche en fait, un cas limite, dans la mesure où la rhétorique textuelle qui est appliquée au symbole l'emporte sur ce qui est à proprement parler le pictural. On voit bien qu'ici, c'est le message au sens textuel qui compte davantage. Il s'agit d'un arc de triomphe, qui compte davantage donc que les moyens et qualités de la représentation figurée. Sinon, qu'elle doit justement frapper par son caractère de profonde étrangeté, en particulier dans le contexte, somme toute classique, d'une porte triomphale. L'invention géniale de Colonna, invention géniale parce qu'il instaure une syntaxe, il permet cette syntaxe, va influencer considérablement un autre humaniste sur lequel je voudrais à présent me pencher, qui m'est cher, et elle va lui suggérer l'idée d'une monumentale encyclopédie au sein de laquelle les principes du langage hiéroglyphique, et en particulier le riche répertoire des symboles et les règles combinatoires de la syntaxe, seraient exposés. Cet humaniste, bon, c'est Pierio Valeriano, qui est né en 1477 et mort en 1558 à Belluno, qui est formé à Venise et Padoue, et qui, pendant 50 ans, va composer un livre qui s'intitule Hieroglyphica, lui aussi, et qui est une espèce de super commentaire des Hieroglyphica d'Orapollon. Ce livre qui est formé de 58 parties, 58 traités, compte à peu près 900 pages de latin, un gros in-folio, et 180 illustrations qui sont disposées de façon très irrégulière. Ce livre, donc, propose un certain nombre de traités qui sont tous donc dédiés à un personnage qui est vivant au moment de la dédicace, et il y a toujours une thématique. D'abord, les animaux terrestres. Ensuite, les animaux aériens. Les 15 premiers livres, à peu près, c'est sur les terrestres, les 15 d'après, sur les aériens. Aquatiques, les parties du corps, les artefacts, les objets, si vous préférez, et des plantes. Qu'est-ce qu'il fait, Valeriano, dans cette énorme somme? Il tente de concilier le symbole avec le hiéroglyphe. C'est-à-dire, en fait, de récupérer la gloire hiéroglyphique au profit du symbole hérité de la tradition gréco-latine et judéo-chrétienne. Un exemple que je traiterai assez rapidement, vu l'heure, permettra de voir comment Valeriano procède. Cet exemple, c'est celui de la stèle de Sésostris. Alors là, me direz-vous, et nous avons une vraie stèle égyptienne, que nenni. Nous en avons deux. Et c'est déjà ce qui est intéressant. Nous avons deux, mais on ne le sait pas. Et deux qui se coupent, je dirais, à peu près là. Vous reconnaissez bien ce à quoi vous pensez ici. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un graffiti, c'est bien un sexe masculin. Et ici, c'est bien un sexe féminin. Vous pouvez avoir quelques doutes. Alors, dans le livre 34 que Valeriano consacre au cœur humain, aux parties sexuelles, et qu'il dédie à son ami Sebastiano Corrado, il évoque les stèles que le pharaon Sésostris érigeait pour commémorer ses victoires et sur lesquelles il faisait graver un sexe féminin ou masculin selon la lâcheté ou le courage montré par les vaincus. Je cite. Le paragraphe s'intitule « Bravoure ». Voici donc la première signification des parties viriles qui, gravées sur tant de colonnes, figurées sur tant d'obélisques, sculptées sur tant de monuments antiques, on n'en retrouve aucun, représentaient l'esprit noble et droit d'un homme courageux. Il subsiste encore aujourd'hui quelques vestiges de colonnes érigées en souvenir de Sésostris qui sont gravées de lettres égyptiennes parmi lesquelles on voit sculptées les parties naturelles des deux sexes. En effet, au livre 3, Théopompe appelle Sésostris, que d'autres ont nommé Sésonkosis, celui donc qui régna sur toute l'Égypte et étendit son pouvoir en Europe et dont Hérodote nous parle longuement. Quand donc, sur des colonnes ou des obélisques érigées par lui, on voit des parties viriles, on comprend que des hommes vaillants, courageux et braves ont été vaincus par lui. En effet, si une femme qui a un mari et des enfants rêve qu'elle est changée en homme, les interprètes des rêves prédisent qu'elle sera bientôt veuve et qu'elle va donc s'acquitter des tâches d'un homme. Mais si elle n'a pas d'enfants, c'est qu'elle va mettre au monde des garçons. Si elle est vierge, c'est qu'elle va être donnée en mariage. Ainsi, cette partie du corps humain indique toujours quelque chose qui a trait aux affaires viriles. Suite immédiate. Le coire est le faible. Mais quand ? Sur les mêmes monuments, on voit graver des parties féminines. Le sens est que des hommes faibles, efféminés et mous ont été écrasés par celui dont le nom ou le signe a été placé au-dessus. C'est très important parce que vous ne voyez rien là. Et comme par hasard, c'est cassé. C'est sans aucun doute ce à quoi Homère se rapporte quand il présente Tersite blâmant la pusillanimité des Grecs par ces mots. Vils objets d'opprobre, achéennes et non plus achéens. C'est ce que transposa fort joliment Virgile avec Numanus, fanfaronnant plein de jactance sur lui-même et ses exploits, lorsqu'il le met en scène en disant « Ô Phrygienne et non pas Phrygien » à l'adresse du camp assiégé des Troyens. Ailleurs, il prescrit que les affaires des hommes consistent à s'occuper de la guerre et de la paix. Et Horace est stupéfait devant le mal courage de Cléopâtre, qui, cherchant vaillamment à mourir, ne s'effraya guère d'une épée, pas du tout comme une femme. Chez le même, par ses vers, le poète Tyrtée encourage non pas les femmes, mais les courages virils pour les guerres martiales. Ovide dit lui aussi contre l'eunuque, lorsque le soldat affirme être un homme, « C'est ce que possèdent les mâles, toi renonce à ces virils espoirs. » En outre, les interprètes des rêves disent que si un prince pense en rêve avoir dégénéré en femme, il arrivera qu'il sera renversé de son poste parce que les femmes subissent le plus souvent le pouvoir des hommes. Cet exposé est scindé en deux parties interrompues par un changement de sujet secondaire, donc de paragraphe, ainsi que par une digression concernant Artémidore, d'après des songes. De plus, alors même que la gravure qui flanque en partie les deux paragraphes concernés signale le côté remarquable du monument égyptien, il n'en est plus question après la brève mention du début du second paragraphe, que suit d'ailleurs une autre digression centrée sur Homère, Virgile, Horace, Ovide, pour finir par le même Artémidore. Avant d'en arriver au stèle de Sésostris, Valeriano commence par quelques considérations générales, d'où il ressort que, selon lui, les pudenda, les parties honteuses, sont un motif très courant. Si on veut bien qu'il y ait un certain nombre de colonnes ou reliefs priapiques à la Renaissance, il est bien sûr que Valeriano n'a jamais vu un seul obélisque comportant une telle image, car la seule mention connue de ce soi-disant, ce prétendu signe hiéroglyphique est littéraire et concerne précisément les fameuses stèles de Sésostris. Alors, elle n'est pas sujette à caution. Hérodote prétend en avoir vu, et Diodore aussi. Donc, ce que fait Valeriano ici, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, à partir de sources antiques, il crée une stèle égyptienne. Je dirais à partir de deux. À partir de celle qui concerne les faibles, et à partir de celle qui concerne les forts. Et en créant cela, il permet aussi autre chose. Vous voyez, ici, c'est cassé. Cassé signifie que ce peut être complété. C'est intéressant, et on verra pourquoi, évidemment, un petit peu après. Mais je voudrais regarder un petit peu avec vous la gravure. Elle montre donc la stèle de Sésostris, un obélisque qui est brisé dans ses parties inférieures et supérieures, et qui comporte six signes, l'un en dessous de l'autre. Un oiseau, un arc bandé avec une flèche, dirigé vers le troisième signe, un sexe masculin, puis un couteau, puis un foudre, puis le sexe féminin. Et à ces signes correspond une courte phrase latine, en six mots elle aussi, donc « Vicit armis strenuos », littéralement donc « Il vainquit par les armes les vaillants », je garde l'ordre, « Il vainquit par les armes les vaillants », donc le « il » est, on verra quel est l'oiseau après, « Vicit fama », fama c'est le foudre, le foudre étant l'instrument de Jupiter qui peut effectivement donc tuer n'importe qui, et qui est en même temps un symbole de rapidité. Ce couteau, en fait, est là pour dire aussi la victoire, et inertes, donc, c'est-à-dire sans courage, les lâches. On peut se demander pourquoi celui-ci et celui-ci, finalement, sont différents, puisque, en théorie, plutôt celui-ci et celui-ci. Hein, la victoire devrait être, justement, représentés par les mêmes signes, enfin en tout cas on l'attend. En fait, la réponse est là. Là. Ici. Ça, pour dire César, signifie aussi, donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, cela reposait sur le sens de couper, trancher ou même tuer. Et donc, c'est ce sens-là du couteau qu'on trouve chez Colonna et qui réapparaît, en fait, ici, sur la stèle de Valeriano, qui n'en dit rien. Il y a donc dans cette création de Valeriano quelque chose de tout à fait intéressant parce que, précisément, c'est une création, c'est-à-dire une émulation par rapport aux sources antiques et non pas simplement le respect de ses sources, même si c'est, je dirais, archéologiquement parlant, avec des guillemets pour l'époque, parfaitement correct, mais surtout, le fait que ce soit brisé, non finito, permet justement de le compléter si on le souhaite. Il suffirait d'ajouter l'emblème de n'importe quel potentat pour que, d'un seul coup, ce soit la victoire d'une personne particulière qui soit ici représentée. Ce que je veux dire, c'est que Valeriano permet, en mettant à nu la manière dont les signes peuvent s'organiser les uns avec les autres, Valeriano permet en fait tout un ensemble de développements. Il montre comment on peut coder un énoncé symbolique. Et il le montre en le décortiquant. Alors, « le détour, en fait, par les inscriptions hiéroglyphiques égyptiennes, le modèle universellement reconnu, mais particulièrement en relief ce qu'aujourd'hui nous appellerions les défauts de Valeriano, et qui, de son temps, font sa force. On est à 100 lieues d'une reconstitution archéologique fidèle, voire seulement d'une tentative de reproduction de l'apparence visible des caractères hiéroglyphiques authentiques, pourtant bien connus par les monuments égyptiens de Rome. En fait, à l'instar de ses contemporains, Valeriano se livre à une fructueuse trahison. Il recrée empiriquement un langage symbolique, débarrassé en fait de ses scories égyptiennes, exception faite du mode de fonctionnement qui lui est prêté. Il est formé de signes visibles, immédiatement compréhensibles, en théorie, par les doctis, c'est-à-dire par les lettrés. Mais on assiste en même temps à un essai de résurrection du monde antique dans ce qu'il peut avoir de plus vivant via la création de l'utopique langage universel que sont les hiéroglyphes de la Renaissance, tous fondés sur les sources léguées par l'Antiquité égyptienne, romaine et hébraïque. La profondeur de cette reviviscence tient précisément à la volonté de faire sienne une langue symbolique dont les fondements, seuls conservés, appartiennent à un passé révolu, mais dont l'organisation discursive, elle, qu'on pense alors à jamais perdue, Champollion n'est pas encore né, est donc perpétuellement à réinventer. Pour y parvenir, il est nécessaire d'utiliser ces symboles non comme des ornements ponctuels, dont l'étrangeté fait le prix, mais en les articulant les uns aux autres, dans de possibles suites signifiantes, capables d'équivaloir aux énoncés des langues traditionnelles. On voit combien, sous une apparente simplicité et le respect de la tradition hiéroglyphique, même récente, l'ouvrage de Valeriano est neuf. Il diffère des précédentes miscellanées dont il se réclame pourtant par le thème choisi, les hiéroglyphes égyptiens. En outre, il montre alors une volonté de rassembler tous les hiéroglyphes possibles, alors même qu'il a, dès l'origine, l'assurance de ne pas pouvoir achever son œuvre par nature incommensurable. En outre, paradoxe supplémentaire, il est certain de ne pouvoir jamais déchiffrer les hiéroglyphes que les monuments égyptiens de Rome lui montrent. Pourtant, persuadé de la valeur intrinsèquement sacrée de ces hiéroglyphes et de leur généralisation dans l'Antiquité, il reprend l'idée ficinienne de la Prisca Theologia en la christianisant davantage. Poser ce préalable quasi méthodologique, qui fait de la Grèce et de Rome les héritières de l'Égypte, il lui apparaît normal de faire entrer les symboles gréco-romains dans la sphère des hiéroglyphes. Pour réaliser cette fusion, il assimile alors le processus symbolique au processus hiéroglyphique, fondé lui aussi sur la présence d'un signifiant iconique. Les symboles sont alors devenus des hiéroglyphes et se revêtent de leur lustre inégalable. On voit comment les hiéroglyphes égyptiens ont exercé une influence extrêmement importante sur ce langage symbolique occidental, alors même qu'on ne le comprenait pas. Mais les théories qui tentent d'en rendre compte, pour inappropriées qu'elles soient, ont nourri l'imaginaire des humanistes et des artistes, les obligeant à clarifier leur propre manière d'envisager les représentations symboliques. En outre, grâce à leur prestige, les hiéroglyphes ont contribué au regain de vigueur qu'ont gagné alors les symboles issus de la tradition antique que la Renaissance redécouvre avec passion. Mais pour être envisagés pour eux-mêmes, et non comme une sorte de prétexte, il faudra attendre que la science philologique naissante s'approprie cette matière et puisse y appliquer des méthodes qui laissent de côté, justement, les errances auxquelles avait mené une conception qui faisait la part belle aux rêves et à l'imaginaire.
Des questions.
Excusez-moi, je suis émotionné.
Je vous en prie.
Vous avez fait un exposé qui est très très beau et en même temps très décapant. Je mettais de côté la tradition hermétique de Évola, mais je vous parle simplement comme un petit bonhomme de la rue. Je suis très ému par trois choses. Commençons par ici, avec cette œuvre que vous dites, pas terminée, comme les mots que vous avez employés, vous avez dit...
J'ai oublié l'expression italienne qui s'applique à la peinture, qui est non finito.
Non finito. Et évidemment, je pensais à Baudelaire aussi, qui disait ce qui n'est pas fini est fait, et ce qui est fini n'est peut-être pas même fait. Et là, il y a un grand débat à faire. Mais mon émotion me vient, j'habitais à Rome quelques temps par la Villa Medici, et J'ai eu l'occasion d'encontrer l'œuvre de Quirico. Et dernièrement, ici en France, à Angles-sur-Angrain, j'ai eu l'occasion de visiter la grotte sorcière, mais l'original, la vraie grotte sorcière. Et tout d'un coup, à vous écouter, j'étais vraiment dans une émotion, parce que, étant donné que je suis quand même plasticien, sculpteur et peintre, en regardant ces tableaux de Gentile Bellini, c'est vrai qu'au début, au premier abord, je croyais que j'étais à Venise, tout d'un coup. Mais ce qui m'a émotionné, c'est de voir cet obélisque que vous avez décrit, avec ses symboles. Et tout d'un coup, il m'est venu à l'esprit le travail que De Quirico a fait. Et quand que vous avez parlé parfois de certains côtés surréalistes, je me suis dit, certainement, que De Quirico, comme beaucoup d'autres, on a analysé cette œuvre-là, parce que dans certains tableaux métaphysiques qui paraissent figés dans le perspective comme ça, je crois comprendre maintenant mieux certaines volontés d'avoir mis des signes que parfois je disais, mais pourquoi il a fait cette perspective, puis sur ce mur-là, il a mis un signe comme ça. Puis tout d'un coup, et voilà que je suis éclairé par votre exposé, par cet obélisque, qui me donne à voir la généalogie de toute la démarche métaphysique contemporaine.
Je vous remercie pour cette intervention. Je ne sais pas si j'irai aussi loin que vous, mais en tout cas, qu'il puisse y avoir des liens, par exemple, entre ce que fait Quirico et cette littérature en fait sur les symboles qui est en fait assez originale, il faut bien le dire, c'est-à-dire en dehors de ce qui concerne l'antiquité gréco-latine traditionnelle, et même en ce qui concerne l'antiquité gréco-latine traditionnelle, il y a une grande originalité parce que les auteurs dont j'ai fait mention là, en passant, sans aller vraiment en passant, connaissent à fond latin et grec, et surtout connaissent à fond des explications, mais absolument incroyables pour nous, que nous n'avons bien souvent jamais lues, parce que, je n'en ai pas parlé là, mais Valeriano se sert en particulier pour l'obélisque là, de la fin, des scolies à Apollonios de Rhodes. Même des étudiants ou des professeurs qui étudient le latin et le grec se réfèrent assez peu aux scolies à Apollonios de Rhodes, on n'en a pas besoin. Les gens de ce temps les connaissaient par cœur et se servaient de l'autorité qu'elle représentait comme d'une pièce de monnaie, comme d'une sculpture, comme d'une peinture, comme d'un texte très connu. Ce qui fait qu'il y a un processus qui effectivement, même s'il faut être prudent avec tout cela, mais qui effectivement rappelle certaines manières en tout cas revendiquées par les artistes du XXe siècle français, de la première moitié du XXe siècle, en tout cas, dans la mouvance surréaliste. Oui. Je ne sais pas, franchement, si Quirico a connu ces textes illustrés, même si, pour ce qui est du Polyphile, je pense que oui, franchement. Pour les autres, c'est plus difficile. Mais il y a parfois, devant les tableaux que nous pouvons voir, l'impression de reconnaître des bribes, en fait, et qui font penser.
Et s'il n'y avait pas eu...
Monsieur devant, pardon.
Après, je vous repasse le micro.
Vous avez fait allusion dans votre exposé à un travail philologique qui commencerait dans la suite. Hein.
Voilà. Oui.
C'est ça. Alors, je voudrais savoir un peu quel peut être ce travail philologique. Éventuellement, quel peut être le rôle des langues sémitiques, enfin, hébreu, araméen, etc., là-dedans. Enfin, je veux dire. Parce Alors, que déjà, il y a un gap, si on peut dire, entre les structures gréco-latines, pour simplifier, et une langue sémitique. Enfin, il y a déjà des mécanismes qui sont assez différents.
Oui. Voilà. Oui.
Et alors le saut hiéroglyphe, c'est autre chose. Enfin bon, par exemple, à l'époque d'Olaus-Kircher, où est-ce qu'on est arrivé, si vous voulez, d'un point de vue là?
Mais d'une certaine manière, on est arrivé nulle part. C'est-à-dire que bon, Kircher a une idée qui sera une idée absolument extraordinaire, on le reconnaît pas suffisamment peut-être, c'est de mettre en avant l'importance du copte. Et le copte sera le moyen par lequel Champollion plus tard, enfin avant même Champollion, les Anglais, comme Young, arriveront à percer la voie vers le déchiffrement. Donc je ne suis pas spécialiste, hein, je tiens en même temps à le dire. Mais la philologie, véritablement, pour comprendre le langage hiéroglyphique, ce à quoi je faisais référence, c'est vraiment le 18e. Avant, il n'y a pas de percée. Athanase Kircher, qui est un jésuite follement génial ou génialement fou, c'est selon, tout le monde ne le voit pas de la même manière, produit une œuvre qui est très intéressante, mais alors même qu'au départ, il cherche, semble-t-il, à comprendre les hiéroglyphes, en fait, à la fin, il en compose, lui aussi. Et c'est tout ce mouvement, et il en compose sous une forme d'inspiration qui a à voir avec justement l'allégorie et tout ce qui en fait ne peut que l'empêcher de comprendre. En fait, le gros problème est, en fait, Aurapollon n'a pas été une aide parce que Aurapollon ne mettait pas assez en avant l'idée que nous avions un langage qui était destiné non pas à dire seulement des choses sacrées, mais qui pouvait très bien dire les choses du monde le plus concret. C'est-à-dire une langue. Et que, puisqu'on avait une langue, et puisqu'on avait un système de signes, il aurait été nécessaire d'essayer de faire coïncider les réalités, les objets, ces signes, avec les éléments d'une langue. Et ça, ils ne l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait. Alors qu'il y a, ici et là, dans la littérature antique, il y a un passage de Clément d'Alexandrie où Clément dit très bien les trois manières sous lesquelles les hiéroglyphes se présentent habituellement. Mais c'est comme si ce n'était pas lu. En fait, ce qu'ils veulent voir aussi peut-être, parce que cette dimension est vraiment plus importante pour eux, c'est la dimension allégorique, la dimension symbolique. Vraiment, c'est le langage qui se comprend tout seul. Et il y a aussi ce que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance d'Hermès Trismégiste et de l'endroit où on le place chronologiquement. Ça aussi. Dans la mesure où ce qu'on voit dans les hiéroglyphes, ce qu'on voit dans Hermès, c'est un passeur, et ce qu'on voit dans les hiéroglyphes qu'il passe, c'est finalement le langage qui est hérité de celui avec lequel Dieu s'est adressé à Moïse, dans ce langage immédiatement compréhensible, évidemment, dont on n'a aucune trace. Et en même temps, vous conviendrez qu'il y a de la mauvaise foi, puisque ça passe forcément par la vue, qui est quand même un des sens, ce langage qui serait normalement immédiatement intelligible. C'est ça qui leur a plu, je dirais, pour vraiment résumer le plus grossièrement possible. Et donc, ils étaient très loin, constamment très loin, de l'analyse qui aurait pu mener ensuite à des percées qui ont été lentes. Hein. Même ce grand savant, qui est Thomas Young, à la fin du XVIIIe siècle, le savant anglais, il finit par avoir des idées très arrêtées, par revenir à une forme, par être un influencé par les idées allégoriques, je dirais à la fin. L'idée que, quand même, les hiéroglyphes, ça ne peut pas servir à dire tout. On va trouver des noms propres, on va trouver des noms de Dieu, mais le reste, peut-être plus difficilement. Et vraiment, il y a une percée avec Champollion qui, bon, on le sait bien, hein, elle est définitive. Parce que lui, met tout cela à plat. Bon, il vient après les autres, quand même. Hein, il ne faut pas oublier.
Enfin, on n'a pas songé à cette époque-là.
Il ne semble pas qu'on ait songé. Je vous dis, il y avait ce passage dans les Stromates de Clément d'Alexandrie où, en fait, il parle des différents types d'écriture et où on aurait pu éventuellement comprendre qu'il y avait différents types de hiéroglyphes, mais que c'était la même chose, écrit différemment. Que le copte était finalement une sorte d'égyptien beaucoup plus tardif, et que par le copte, on pouvait remonter dans une certaine mesure. Mais tout cela, c'est de l'analyse linguistique, et ce n'est pas... En fait, nous connaissons, nous avons connu un saut épistémologique. Et c'est pour ça que je vous disais initialement, oubliez Champollion. Champollion n'existe pas, vous ne savez pas tout ce que vous savez. Vous essayez de faire comme si vous ne saviez pas. Ce qui est évidemment assez complexe, hein. J'en conviens. Ça ne peut être qu'une opération psychologique. Nous sommes dans une époque qui est après cette manière-là, après ce saut-là que la science a effectué. Mais avant, c'est absolument inconcevable qu'on puisse y arriver, vraiment inconcevable. Et Kircher lui-même, si je puis dire, parce que c'était un érudit de première force, Kircher, c'est vraiment pas quelqu'un qui sait un tout petit peu de latin et de grec, non, il connaît des langues très rares aussi. Très bien, mais il va se laisser prendre à cette espèce d'envolée allégorique, ce qu'on pourrait appeler comme cela, qui a été en fait celle à quoi mène en fait un courant extrêmement puissant qui remonte à l'Antiquité et qui est de fascination pour l'Égypte. On le voit avec les Grecs, on le voit avec les Romains, ça se poursuit et ça se maintient. Et malgré ce qu'on pourrait appeler une forme d'interruption. Pour la culture à proprement parler classique, il y a une forme d'interruption avec le Moyen-Âge qui regarde autre chose, qui ne regarde plus vraiment cela. Et bien, lorsque les hommes de la Renaissance redécouvrent les textes classiques, lorsque certains d'entre eux vont même en Égypte, ça perdure. Ça perdure malgré tout et il faudra vraiment attendre autre chose pour. Je ne saurais pas vous dire. Non, je ne sais pas. Il y avait mademoiselle tout à l'heure, oui. Mais je ne sais pas.
Quelqu'un qui a vu le doigt?
Non. Ah, j'ai cru.
Maître, imaginons qu'il n'y aurait pas eu l'événement trimégiste.
Oui.
Est-ce qu'il aurait été possible pour vous de faire le même raisonnement que vous venez de faire? Je vous pose cette question, vous savez pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous avais dit que j'ai eu la chance de visiter la grotte de Roc aux Sorcières. Et c'est le lieu de la sculpture. Hein. J'ai vu l'original. Hein. Et c'était étonnant. Là aussi, il y avait un triptyque des trois femmes pas achevées. Et c'était un peu comme la fécondité, une femme qui est maigre, une qui est. Le tissage de la vie comme ça. Mais je me disais, est-ce que face à cette préhistoire-là, on ne pourrait pas aussi la voir comme vous venez de nous expliquer le stèle, la dernière photo non finito.
Je dois dire que je ne suis pas absolument certain de comprendre exactement où vous voulez en venir. Parce que, si vous voulez, les objets que vous essayez de comparer sont malgré tout tellement éloignés dans le temps et dans l'espace et par les moyens qui ont amené à leur production que, pour le coup, c'est une expérience peut-être un peu surréaliste que de les comparer.
Oui, mais Dieu aussi est loin dans le temps et dans l'espace.
Ça, c'est une autre affaire.
Vous parlez avec les trois personnages, mais Dieu aussi, il est très loin, métaphysiquement parlant, évidemment, mais je vous l'assure que, à vous écouter quand vous avez décrit ce système ici, j'ai eu la même émotion que j'ai eu dans la grotte quand j'ai vu la bouche des trois femmes, et puis qu'elles ne sont pas achevées parce qu'elles ne sont pas.
Ah oui, en ce sens. Si vous voulez, la stèle que nous avons là, en fait, elle est prétendument égyptienne. Elle a un côté archéologique évident. Enfin, elle feint l'archéologie, elle feint le monument trouvé. Mais elle ne le feint que pour inviter à ce qu'on les complète. C'est-à-dire que ce motif se donne comme... une espèce de section d'énoncé. Complétez-le, si vous le voulez, si vous le souhaitez. Et voilà comment ça marche, et voilà comment, en même temps, voilà comment les choses s'articulent les unes par rapport aux autres. Je ne suis pas absolument certain qu'on retrouve la même chose dans ce dont vous nous parlez.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que vous ne pourrez peut-être pas parler aux conférenciers après, parce qu'on va être obligé de laisser la salle. Donc profitez du temps qui nous reste si vous avez envie de parler avec lui. Manon. Merci beaucoup pour cette très belle conférence, Monsieur Rollet. Merci infiniment. Je vous dis à la prochaine fois. Je n'ai plus la date en tête, mais vous avez le programme, vous allez le voir. Merci à tous. Bonsoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Donc la prochaine, c'est le 19 novembre. Voilà. Donc c'est la page 14 de votre programme.